Chapitre 10. Le vif et l'épée. De tout temps, les Outriliens ont attaqué les côtes des Siduchés. D'ailleurs, le fondateur de la monarchie des loin-voyants n'était lui-même qu'un pirate lassé de la vie sur mer. Les hommes de preneur balayèrent les premiers bâtisseurs du fort en bois, à l'embouchure de la serre, et s'emparèrent de la place. Les générations passèrent. Les murailles de pierre noire du château de Castelserre remplacèrent les palissades, et les pirates outriliens devinrent résidents et monarques. Commerce, pillage et piraterie existaient simultanément entre les Siduchés et les îles d'outre-mer, mais les débuts des assauts des pirates rouges marquèrent une modification de ces contacts, rudes certes, mais profitables. La sauvagerie de ces attaques, ainsi que les destructions qu'elles entraînaient, était sans précédent. Certains les attribuaient à la montée au pouvoir dans les îles d'outre-mer d'un chef barbare qui avait épousé une sanglante religion de vengeance. Les plus féroces de ses partisans étaient devenus pirates et membres d'équipage de ces navires rouges. Les autres outriliens, qui jusque-là n'avaient jamais été unis sous une seule bannière, durent lui jurer fidélité sous peine, pour ceux qui refuseraient, de se voir forgiser eux-mêmes et leur famille. Avec ses pirates, ce chef porta sa haine perverse contre les côtes des Siduchés. S'il avait d'autres intentions que tuer, violer et détruire, il ne les fit jamais connaître. Il s'appelait Kemal Pincru. « Je ne comprends pas pourquoi vous refusez mon aide, » dis-je d'un ton guindé. Vérité cessa de racler le dragon. Je m'attendais à ce qu'il se tourne face à moi, mais il s'accroupit seulement un peu plus, pour nettoyer de la main des éclats et de la poussière de roche. J'avais du mal à me convaincre des progrès qu'il avait faits. La patte avant droite reposait à présent sur la pierre. Certes, il y manquait la finesse de détail qui caractérisait le reste du dragon, mais la patte elle-même était achevée. Vérité, d'un geste prudent, enveloppa de la main un des doigts griffus, puis il demeura près de sa création, patient et immobile. Je ne voyais pas sa main bouger, mais je sentais l'art à l'œuvre. Entendant mon esprit si peu que ce fût, je percevais les fissures infimes qui se produisaient dans la pierre et la faisaient partir en minuscules éclats. On eût tout à fait dit que le dragon était caché dans la pierre et que la tâche de vérité était de le mettre au jour, une écaille brillante après l'autre. « Fitz, arrête !» Il y avait de l'agacement dans sa voix. Agacement que je partage son art et agacement d'être ainsi distrait de son travail. « Laissez-moi vous aider, » le suppliai-je à nouveau. Je me sentais attiré par l'ouvrage auquel il était attelé. Auparavant, alors que Vérité grattait la pierre du bout de son épée, je ne voyais dans le dragon qu'une admirable sculpture. Mais à présent que Vérité et Caudron employaient leur pouvoir ensemble, la créature chatoyait d'art. Elle était immensément attrayante. De la même façon qu'un ruisseau étincelant aperçu à travers les arbres attire l'œil ou que l'odeur du pain fraîchement cuit éveille l'appétit. Je mourais d'envie de mettre la main à l'ouvrage et d'aider à façonner cette puissante créature. Les voir ainsi œuvrer faisait poindre en moi une faim d'art qui n'était comparable à rien de ce que j'avais connu. Je suis resté lié à vous par l'art plus longtemps que quiconque, au temps où je ramais sur le Rurisque. Vous m'avez dit que j'étais votre clan. Pourquoi me rejeter aujourd'hui, alors que je puis vous être utile et que vous avez un urgent besoin d'aide ? Vérité soupira et bascula un peu en arrière, toujours accroupi. Le doigt du dragon n'était pas fini, mais j'y discernais maintenant de fins contours d'écailles et l'ébauche du fourreau de la serre méchamment incurvée. Je sentais comment serait la griffe, striée comme la serre d'un faucon. Je n'avais qu'une envie, y poser la main et extraire ces lignes de la pierre.
« Cesse d'y penser !»
m'ordonna fermement Vérité.
« Fitz, Fitz, regarde-moi, écoute-moi. Te rappelles-tu la première fois où j'ai puisé de l'énergie en toi ?»
Je m'en souvenais. Je m'étais évanoui. « Je connais mieux ma propre force, » répondis-je. Il ne prêta nulle attention à mes propos.
Tu ignorais ce que tu me proposais quand tu m'as dit être l'homme liege du roi. J'ai cru que tu savais ce que tu faisais, mais c'était faux. Aujourd'hui, je t'affirme que tu ne sais pas ce que tu me demandes. alors que je sais ce que je te refuse, et c'est tout.
Mais, Vérité.
Là-dessus, le roi Vérité n'accepte pas de mais, fit ce chevalerie.
Il avait rarement tracé aussi nettement la différence entre lui et moi. Je pris une inspiration pour empêcher mon sentiment de frustration de se transformer en colère. Avec précaution, il plaça de nouveau la main sur le doigt du dragon. Je restai un moment à écouter le clac-clac-clac du ciseau de Caudron qui œuvrait sur la queue à présent dégagée de la créature. Tout en travaillant, elle chantait une vieille ballade d'amour.
« Monseigneur, roi Vérité, si vous acceptiez de me révéler ce que j'ignore pour vous aider, je pourrais peut-être alors décider moi-même si... »«
Cette décision ne te revient pas, mon garçon. »
Si tu tiens à te rendre utile, va couper quelques rameaux, fabrique un balai et nettoie les éclats de pierre. Rester agenouillé là-dessus est épouvantable.
J'aimerais mieux vous être vraiment utile, marmonnai-je d'un ton désolé en m'éloignant.
Fitz chevalerie.
Vérité avait pris un ton cassant que je n'avais plus entendu depuis mon enfance. Je me retournai avec crainte.
Tu t'oublies.
Me dit-il avec brusquerie.
« Ma reine maintient les feux allumés et aiguise mes ciseaux. Te considères-tu au-dessus de telles tâches ?»
Dans ce genre de situation, mieux vaut une réponse brève.
« Non, sire. Dans ce cas, tu vas fabriquer un balai, mais demain, pour le présent, bien que ces paroles m'arrachent la bouche, nous devons tous nous reposer, au moins quelque temps. »
Il se redressa lentement, vacilla puis s'affermit sur ses pieds. D'un geste affectueux, il posa une main argentée sur l'immense épaule du dragon.
« Avec l'aube, lui promit-il. »
Je pensais qu'il allait appeler Caudron, mais elle s'était déjà relevée et s'étirait.
« Ils sont liés par l'art, me dis-je.
Les mots ne sont plus nécessaires pour eux. Mais ils l'étaient pour la reine. » Vérité contourna le dragon pour s'approcher de Kétriken, assise près d'un des feux. Elle affûtait un ciseau, et le bruit de son travail lui cacha celui de nos pas. Un moment, Vérité demeura le regard baissé sur sa reine accroupie, tout à sa tâche.
« Madame, souhaitez-vous que nous dormions un peu ?»
lui demanda-t-il doucement. Elle se retourna, et d'une main grise de poussière, rejeta en arrière les mèches de cheveux qui lui tombaient dans les yeux.
« Comme il vous plaira, monseigneur, »
répondit-elle, en réussissant à évacuer presque toute douleur de sa voix.
« Je ne suis pas fatigué à ce point, monseigneur roi, et je suis prête à continuer le travail si vous le désirez. »
Le ton enjoué de Caudron parut presque déplacé, et je notai que Kétriken ne se tourna pas vers elle. Pour sa part, Vérité se contenta de répondre.
« Parfois, il vaut mieux se reposer avant d'être fatigué. Si nous dormons tant qu'il fait noir, nous travaillerons mieux à la lumière du jour. »
Kétriken fit une grimace, comme s'il venait de la critiquer. « Je puis faire des feux plus grands, monseigneur, si c'est ce que vous souhaitez, » fit-elle d'un ton circonspect.
« Non. Je souhaite me reposer avec vous à mes côtés, si vous le voulez bien, ma reine. »
Ce n'était guère plus qu'un squelette d'affection, mais Kétriken s'y raccrocha.
« Je le veux bien, monseigneur. »
J'eus mal de la voir se satisfaire de si peu.
« Elle n'est pas satisfaite, Fitz, et je ne méconnais pas sa peine. Je lui donne ce que je puis lui donner sans risque. »
Mon roi lisait encore facilement en moi. Penaud, je leur souhaitais bonne nuit et me dirigeais vers la yourte. À mon approche, Œil de Nuit se leva et s'étira en bâillant. « As-tu chassé ?»«
Avec toute la viande qui reste, à quoi bon ?»
Je remarquai alors les os de truie qui l'entouraient. Il se recoucha au milieu d'eux, le museau dans la queue, aussi riche que peut l'être un loup. L'espace d'un instant, j'enviais son bien-être. Astérie était de garde devant la tente, près du feu, sa harpe entre les genoux. J'allais passer devant elle en la saluant d'un signe de tête quand je m'arrêtais pour examiner sa harpe. Avec un sourire ravi, elle me l'attendit. Le fou s'était dépassé. Il n'y avait aucune de ces dorures, de ces fioritures, incrustations d'ivoire ou d'ébène qui, aux yeux de certains, donnent toute sa valeur à un instrument. Il n'y avait que le lustre argenté, des courbes du bois et de subtiles gravures qui en faisaient au mieux ressortir le grain. Il était impossible de regarder cette harpe sans avoir envie de la toucher, de la tenir. Le bois attirait la main et les reflets du feu y dansaient. Gaudron s'arrêta elle aussi pour inspecter l'instrument. Puis elle pinça les lèvres.
Aucune prudence. Un de ces jours, ça lui coûtera la vie,
dit-elle d'un ton sinistre, sur quoi elle me précéda sous la tente. Malgré ma longue sieste plus tôt dans la journée, je sombrais dans le sommeil presque aussitôt que je fus couché. Je ne devais pas avoir dormi longtemps quand un bruit discret au dehors me réveilla. Je tendis mon vif.
Des hommes.
Quatre, non, cinq, qui montaient en direction de la chaumière. Je ne pus guère en savoir plus que le fait qu'ils se déplaçaient sans bruit, comme des chasseurs. Quelque part dans une pièce sombre, Burick se redressa dans son lit. Il se leva et gagna pieds nus le lit de Molly. Puis, il s'agenouilla près d'elle et posa doucement la main sur son bras.
Burick ?
Elle prit son inspiration tout en prononçant son nom, puis attendit qu'il s'explique.
« Ne faites pas de bruit, souffla-t-il. Levez-vous, mettez vos chaussures et emmaillotez bien Horty, mais tâchez de ne pas la réveiller. Il y a des gens dehors, et je ne pense pas qu'ils nous veuillent du bien. »
Je fus fier d'elle. Sans poser de questions, elle se redressa aussitôt, enfila sa robe par-dessus sa chemise de nuit et enfonça ses pieds dans ses chaussures. Elle enveloppa Horty dans sa literie, si bien que la petite ne ressembla plus guère qu'à un paquet de couvertures. Elle ne se réveilla pas. Pendant ce temps, Burick avait enfilé ses bottes et pris une épée courte. Il fit signe à Molly de se rendre près de la fenêtre au volet fermé.
« Si je vous en donne le signal, sortez par cette fenêtre avec Horty, mais uniquement si je vous en donne le signal. Je pense qu'ils sont cinq. »
À la lueur du feu, je vis Molly acquiescer de la tête. Elle tira son couteau et se tint prête à défendre son enfant. Burick alla se planter à côté de la porte, et la nuit entière parut passer dans l'attente silencieuse de l'assaut. La barre était en place, mais n'était guère utile sur un encadrement aussi chargé dedans. Burick laissa les attaquants tenter à deux reprises de défoncer la porte, puis, comme la barre commençait à céder, d'un coup de pied, il la fit sauter de ses taquets, si bien que la porte s'ouvrit brusquement sous le choc suivant. Deux hommes entrèrent en titubant, surpris par l'absence de résistance. Le premier tomba, le second trébucha sur lui, échut à son tour, et Burick les transperça tous deux de son épée avant que le troisième assaillant apparût à la porte. Il était grand, avec une barbe et des cheveux roux. Il pénétra dans la chaumière en poussant un rugissement et enjamba ses deux acolytes qui se tordaient de douleur. Il brandissait une longue et superbe épée qui, ajoutée à sa propre taille, lui permettait une allonge presque deux fois supérieure à celle de Burick. Derrière lui, un personnage corpulent beugla.
« Au nom du roi, nous venons chercher la putain du bâtard au vif. Jetez votre arme et écartez-vous !»
Il eût été mieux avisé de ne pas exciter davantage la colère de Burick. D'un geste presque insouciant, il acheva un des hommes au sol, puis releva son épée sous la garde de Barberousse, qui recula en cherchant de l'espace pour mieux employer son arme. Burick dut suivre le mouvement car ses chances de résister étaient minces si l'homme trouvait un coin dégagé. Le personnage corpulent et une femme entrèrent à leur tour, s'attirant un rapide coup d'œil de Burick.
« Molly, faites ce que je vous ai dit !»
Elle était déjà près de la fenêtre et serrait contre elle Horty qui s'était mise à pleurer de frayeur. Elle bondit sur une chaise, ouvrit vivement les volets et passa une jambe par la fenêtre. Burick occupait Barberousse quand la femme se glissa tout à coup derrière lui et lui enfonça son poignard dans les reins. Burick poussa un cri rauque, puis para frénétiquement les assauts de la longue épée. Comme Molly passait l'autre jambe par-dessus l'appui-fenêtre et s'apprêtait à se laisser tomber au dehors, l'homme corpulent se rua vers elle et lui arracha Horty des bras. J'entendis le hurlement de terreur et de rage de Molly. Puis, elle s'enfuit dans l'obscurité. L'incrédulité qui s'empara de Burick, je l'aperçus aussi nettement que la mienne. La femme retira son poignard de son dos. et le brandit pour frapper à nouveau. Mais Burik, s'armant de sa fureur pour bannir la souffrance, fit volte-face pour lui porter une profonde estafilade à la poitrine, puis se retourna vers Barberousse. Son adversaire s'était reculé et se tenait prêt à la riposte. Mais il ne faisait plus un geste. L'homme corpulent déclara
« Nous tenons l'enfant ! Lâchez votre épée ou il meurt sur le champ !»
Il jeta un coup d'œil à la femme qui se tenait les mains sur la poitrine.
« Poursuivez la mère, vite !»
Elle lui adressa un regard noir, mais s'exécuta sans un murmure. Burik ne lui accorda aucune attention. Il n'avait Dieu que pour l'enfant qui pleurait dans les bras du gros personnage. Barberousse eut un sourire étincelant en voyant la pointe de l'épée de Burik descendre vers le sol.
« Pourquoi ?»
demanda Burik d'un ton altéré.
« Qu'avons-nous fait pour que vous nous attaquiez et menaciez de tuer ma fille ?»
L'homme corpulent contempla le visage cramoisi de l'enfant qui hurlait.
« Ce n'est pas votre fille !»
répondit-il d'une voix chargée de sarcasme.
« C'est la bâtarde, du bâtard au vif. Nous le tenons de la plus haute autorité. »
Il leva Ortie au-dessus de sa tête, comme s'il s'apprêtait à la jeter au sol, et dévisagea Burik, qui émit un bruit étranglé, moitié rage, moitié supplication, et lâcha son épée. Près de la porte, le rescapé essaya de s'asseoir en gémissant.
« Ce n'est qu'un nourrisson !»
fit Burik, d'une voix rauque. Comme si j'avais moi-même été blessé, je sentais la chaleur du sang qui ruisselait le long de la hanche de Burik.
« Laissez-nous ! Vous vous trompez, elle est de moi, je vous le répète, et elle ne menace en rien votre roi. Par pitié, j'ai de l'or, je vous le donnerai, mais laissez-nous en paix !»
Burik, qui en temps ordinaire aurait résisté, rugi, combattu jusqu'à la mort, Burik avait laissé tomber son épée et s'humiliait pour mon enfant. Barberousse éclata d'un rire tonitruant, mais Burik n'y prêta nulle attention. Sans cesser de rire, l'homme s'approcha de la table et alluma d'un air désinvolte les bougies du chandelier, qu'il leva ensuite pour inspecter la pièce en désordre. Burik ne détachait pas son regard d'Ortie.
« C'est ma fille !»
murmura-t-il, comme à bout de force.
« Assez de mensonges !»
répliqua l'homme corpulent d'un ton dédaigneux. « C'est le rejeton du bâtard au vif, et elle a la même tare que lui !»«
C'est tout à fait exact !»
Tous les yeux se tournèrent vers la porte. Molly s'y encadrait, très pâle, le souffle court. Sa main droite était rouge de sang, et elle tenait contre elle une caisse de bois dont s'échappait un bourdonnement menaçant.
« La garce que vous aviez envoyée à ma poursuite est morte, »
reprit-elle d'un ton âpre.
« Comme vous le serez tous, si vous ne déposez pas vos armes, et si vous ne laissez pas libre mon enfant et mon mari. »
Le gros homme sourit d'un air ironique, et Barberousse leva son épée. D'une voix qui tremblait à peine, Molly ajouta
« Mon enfant a le vif, c'est vrai, tout comme moi. Aussi, nos abeilles ne nous feront pas de mal, mais si vous touchez à un seul de nos cheveux, elles vous donneront une chasse sans merci et vous mourrez de milliers de piqûres cuisantes. Croyez-vous que vos épées seront très efficaces contre mes abeilles ?»
Elle dévisagea chacun de ses adversaires d'un œil furieux et menaçant sans lâcher la lourde ruche en bois. Une abeille s'en échappa et se mit à voler dans la pièce avec un bourdonnement rageur. Barberousse suivit l'insecte du regard, tout en s'exclamant.
« Ce ne sont que des inventions !»
Burik jaugeait du coin de l'œil la distance qui le séparait de sa propre épée, tandis que Molly demandait d'un ton bas, presque timide.
« Ah oui ?»
Et avec un curieux sourire, elle posa la ruche par terre, puis, sans quitter Barberousse des yeux, elle souleva le couvercle de la caisse et enfonça la main dans les rayons. Le gros homme émit un hoquet d'horreur lorsqu'elle la ressortit couverte d'un gant mouvant d'abeille. Molly rabattit le couvercle et se redressa. Elle baissa le visage vers les abeilles, qui en mitouflaient sa main et murmura.
« Celui à la barbe rousse, mes petites. »
Et elle tendit le bras comme si elle offrait les insectes à l'intéressé. Rien ne se passa pendant un moment. Puis, peu à peu, chaque abeille prit son vol et se dirigea vers Barberousse. Il se recroquevilla lorsqu'une première, puis une seconde le frôlèrent, revinrent et se mirent à tournoyer autour de lui.
« Rappelez-les ou nous tuons la gamine »
s'écria-t-il soudain en essayant de tuer les insectes à coups de chandelier, mais en vain. Molly s'empara de la ruche et la souleva aussi haut qu'elle le put.
« Vous allez la tuer de toute façon !»
répliqua-t-elle d'une voix brisée. Elle secoua légèrement la caisse, et le bourdonnement énervé se transforma en rugissement.
« Mais petite, ils en veulent à la vie de mon enfant, quand je vous libérerai. Vengez-nous !»
Elle leva la ruche encore davantage, prête à la fracasser au sol. Le blessé à ses pieds émit un grand gémissement.
« Arrêtez !» s'exclama l'homme corpulent. « Je vais vous rendre votre enfant !»
Molly se pétrifia. Il était visible qu'elle ne pourrait supporter encore longtemps le poids de la ruche. Et c'est d'une voix tendue par l'effort mais calme qu'elle répondit « Donnez mon bébé à mon mari, puis qu'il vienne près de moi, sinon je vous jure que vous allez mourir, et de manière atroce !» Le gros jeta un regard indécis à Barberousse qui, le chandelier dans une main et l'épée dans l'autre, s'était écarté de la table. Les abeilles continuaient néanmoins à tourbillonner autour de lui, et ses gesticulations, pour les chasser, paraissaient ne faire qu'augmenter leur résolution.
« Le roi royal nous tuera si nous échouons !»«
Alors faites-vous tuer par mes abeilles, » fit Molly. « Il y en a des centaines dans cette ruche, » ajouta-t-elle à mi-voix. Puis, elle poursuivit d'un ton presque enjôleur. « Elles vont pénétrer sous vos chemises, et dans les jambes de vos chausses, elles vont s'accrocher à vos cheveux pour vous piquer, elles vont s'immiscer dans vos oreilles et vos narines et vous piquer là aussi, et quand vous allez vous mettre à crier, vous allez sentir des dizaines et des dizaines de petits corps velus s'engouffrer dans votre bouche et vous piquer la langue jusqu'à ce qu'elle enfle, au point de vous empêcher de respirer. Vous allez mourir suffoqué, la bouche pleine d'abeilles. »
Cette description parut emporter la décision des deux hommes. Le gros s'approcha de Burick et lui fourra le bébé hurlant dans les bras. Barberousse prit l'air furieux, mais n'intervint pas. Ortie serré contre lui, Burick ne négligea pas pour autant de récupérer son épée. Molly adressa un regard noir à Barberousse.
« Vous, là, allez vous placer près de votre complice. Burick, rendez-vous avec la petite, là où nous avons ramassé de la mantillère. S'il me force à les tuer, je ne veux pas qu'elle assiste à ce spectacle. Elle risquerait ensuite d'avoir peur des abeilles qui sont en réalité ses servantes. »
Burick obéit. Et de tout ce que j'avais vu cette nuit, ce fut ce qui me stupéfia le plus. Une fois qu'il fut sorti, Molly recula lentement vers la porte. « N'essayez pas de nous suivre, » dit-elle d'un ton menaçant. « Je laisse mes abeilles de vif monter la garde devant l'entrée. » Et elle donna une ultime secousse à la ruche. Le rugissement crut encore, et plusieurs abeilles s'échappèrent dans la pièce avec un bourdonnement furieux. Le gros homme resta figé sur place. Mais Barberousse leva l'épée comme s'il pouvait en espérer une protection. Le blessé poussa un cri inarticulé, puis s'éloigna à quatre pattes de Molly, qui sortit à reculons de la chaumière en tirant la porte derrière elle. Elle inclina la ruche de façon qu'elle repose contre le battant à présent fermé, puis l'ouvrit et y donna un coup de pied avant de s'enfuir dans la nuit.
« Burick ! » cria-t-elle sourdement. « J'arrive !»
Au lieu de se diriger vers la route, elle partit vers les bois sans un regard en arrière.
« Écarte-toi maintenant, Fitz. »
Ce n'était pas de l'art, mais le murmure de vérité à mon oreille.
« Ils sont à l'abri, tu l'as vu. Ne regarde plus, sans quoi d'autres risquent de voir par tes yeux où ils vont. Mieux vaut que tu l'ignores toi-même. Viens-t'en. »
Il faisait sombre dans la tente. Vérité n'était pas seule avec moi. Caudron était là aussi, et ses lèvres ne formaient plus qu'une mince ligne désapprobatrice. Vérité, lui, avait une expression sévère, mais j'y perçus aussi de la compréhension. Avant que j'ouvrisse seulement la bouche, il déclara
« Si je pensais que tu l'as fait exprès, je serais fort courroucé contre toi. À présent, je vais être très clair. Il vaut mieux que tu ne saches rien d'eux, rien du tout. Si tu m'avais écouté la première fois que je t'ai donné ce conseil, ils n'auraient jamais été en péril comme cette nuit. »
« Vous étiez là tous les deux ? » demandai-je à mi-voix. L'espace d'un instant, je fus touché qu'il se préoccupe tant du sort de ma fille.
« C'est mon héritière, à moi aussi, »
observa Vérité, implacable.
« Crois-tu que j'aurais pu rester les bras croisés s'il lui avait fait du mal ?»
Il secoua la tête. « Tiens-toi à l'équerre de Fitz,
pour notre bien à tous. Tu m'as compris. »
J'acquiesçais de la tête. Son discours ne pouvait m'affliger, car j'avais déjà décidé de rester dans l'ignorance de la cachette où Molly et Burick allaient emmener Horty, mais pas parce que c'était l'héritière de vérité. Mon roi et Caudron se relevèrent et quittèrent la tente, tandis que je me rallongeais sous mes couvertures. Le fou, jusque-là appuyé sur un coude, s'étendit à nouveau lui aussi. « Je te raconterai demain, » lui dis-je. Il hocha la tête, tout en me dévisageant de ses yeux qui paraissaient immenses au milieu de son visage pâle. Puis, je pense qu'il s'endormit. Je restai le regard perdu dans l'obscurité. Œil de Nuit vint se coucher contre moi.
« Il était prêt à protéger ta petite comme la sienne, » observa-t-il. « C'est l'esprit de la meute. »
Il cherchait à me réconforter, mais je n'en avais nul besoin. Je posai la main sur son pelage. «
As-tu vu comme elle leur a tenu tête et les a obligés à ployer le genou ?»
demandai-je avec fierté.
« C'est une femelle d'une rare valeur, »
acquiesça le loup. J'eus l'impression de n'avoir pas fermé l'œil quand Astéry nous réveilla, le fou et moi, pour notre tour de garde. Je sortis de la yourte en m'étirant et en bâillant, avec en outre le sentiment que monter la garde n'était pas vraiment nécessaire. Néanmoins, il faisait agréablement doux pour ce dernier éclat de nuit, et la ménestrelle avait laissé un bouillon de viande à mijoter près du feu. J'en avais déjà bu une demi-chope quand le fou me rejoignit enfin. Astéry m'a montré sa harpe hier soir, fis-je en guise de salut. Il eut un petit sourire suffisant.
Oh, du travail bâclé.
Ah, c'était un de ses premiers essais, dira-t-on un jour, ajouta-t-il en s'efforçant à la modestie. D'après Caudron, tu manques de prudence.
En effet, j'en suis complètement dépourvu, Fitz. Que faisons-nous ici?
Moi, j'obéis aux ordres. À la fin de cette veille, j'irai dans les collines couper des branches de genêt afin de balayer les éclats de pierre qui gênent Vérité.
Ah, noble tâche pour un catalyseur. Et que doit faire un prophète à ton sens?
Tu pourrais prophétiser le moment où le dragon sera terminé, parce que j'ai l'impression que ce sera notre idée fixe tant qu'il ne sera pas achevé. Le fou secoua légèrement la tête.
Qu'y a-t-il encore? Demandai-je. Je n'ai pas le sentiment que nous soyons ici pour fabriquer des balais et des harpes. J'ai plutôt la sensation que nous vivons une accalmie, l'accalmie avant la tempête.
Voilà qui me remonte le moral, fis-je d'un ton lugubre. Mais à part moi, je m'interrogeais. N'avait-il pas raison?
Et maintenant, vas-tu me raconter ce qui s'est passé hier soir?
Quand j'eus fini mon compte-rendu, il me regarda avec un large sourire.
Elle ne manque pas de ressources, cette fille, observa-t-il avec fierté.
Puis, il pencha la tête.
Crois-tu que l'enfant sera douée du vif, ou qu'elle sera capable d'artiser?
Je n'avais jamais envisagé la question. J'espère que non, répliquai-je aussitôt. Et puis, je m'étonnais de ma propre réponse. L'aube pointait à peine quand Caudron et Vérité se levèrent. Ils burent une chope de bouillon sans même prendre le temps de s'asseoir, puis ils s'en allèrent vers le dragon, en emportant une provision de viande boucanée. Kétriken, elle aussi, était sortie de la tente de Vérité. Elle avait les yeux creux, et la défaite se lisait dans le pli de sa bouche. Elle but une demi-chope de bouillon, posa le récipient, et retourna dans la tente pour en ressortir munie d'une couverture pliée de façon à imiter un sac.
Du bois, pour le feu,
répondit-elle d'un ton morne lorsque je haussais les sourcils.
Dans ce cas, autant qu'Œil de Nuit et moi vous accompagnons.
Je dois couper des brins de genêt et un bâton pour fabriquer un balai. Et lui, il faut qu'il s'agite un peu au lieu de dormir et de faire du lard.
Sans parler de ta peur d'aller dans la forêt sans moi.
Si elle fourmille de truies comme celle de l'autre jour, c'est absolument exact.
Peut-être Kétriken pourrait-elle emporter son arc.
Alors même que je me tournais vers la reine pour transmettre la suggestion, elle rentrait dans la tente pour prendre son arme. « Au cas où nous rencontrerions un autre sanglier, » me dit-elle en ressortant. Mais l'expédition se déroula sans incident. Autour de la carrière, la campagne était vallonnée et accueillante. Nous fîmes halte au bord du ruisseau pour nous désaltérer et faire un brin de toilette. J'entraperçus l'éclat d'un petit somono et le loup voulut aussitôt que nous pêchions. Je lui assurai que je l'accompagnerais dès que j'aurais fini mon balai, et il me suivit, mais à contre-cœur. Je coupai des branches de genêt et trouvai une longue branche droite en guise de manche, après quoi nous emplîmes de bois le sac de Ketriken, et j'insistai pour m'en charger afin qu'elle eût les mains libres si elle devait utiliser son arc. Sur le chemin du retour, nous nous arrêtâmes de nouveau au bord du ruisseau, et je cherchai un emplacement où les plantes surplombaient le courant, ce que je trouvai aisément. Là, nous passâmes beaucoup plus de temps que je ne l'avais prévu à pêcher à la main. Ketriken ne connaissait pas cette méthode, mais après quelques tentatives ratées qui mirent sa patience à rude épreuve, elle attrapa le coup de main. Nous prîmes des sortes de truites que je n'avais jamais vues jusque-là, mouchetées de rose sous le ventre. Quand nous en eûmes une dizaine, je les vidai et donnai les entrailles à Eau de Nuit, qui les engloutit aussi vite que je les lui lançais. Puis Ketriken enfila les poissons sur une branchette de saule et nous repartîmes pour le camp. Je ne me rendis compte de l'apaisement que ce calme interlude m'avait apporté qu'au moment où nous arrivâmes en vue du pilier noir qui gardait l'entrée de la carrière. Il me parut plus sinistre que jamais, doigts obscurs et menaçants, dressés comme pour me prévenir qu'en effet, nous traversions une période d'accalmie avant la tempête à venir. Je m'en approchais avec un petit frisson d'angoisse. Ma sensibilité à l'art paraissait me revenir, et le pilier irradiait une puissance maîtrisée plus attirante que jamais. Presque involontairement, je m'arrêtais pour étudier les caractères gravés dans la pierre. « Fitz, vous venez ?» C'était Ketriken, loin devant moi, et je pris conscience à cet instant seulement que j'étais resté longtemps planté devant la colonne bouche bée. Je me dépêchais de les rattraper, elle et le loup, et les rejoignis alors qu'ils passaient devant la jeune femme au dragon. J'avais évité cette statue depuis que le fou l'avait touchée. Je jetai un coup d'œil plein de remords aux trois empreintes de doigts argentés qui brillaient encore sur la peau sans défaut de la cavalière. Qui étiez-vous? Et pourquoi avoir taillé un si triste monument? Lui demandai-je. En guise de réponse, ses yeux de pierre continuèrent à me regarder d'un air suppliant, au-dessus de ses joues marquées de larmes. Peut-être n'a-t-elle pas pu achever son dragon, fit Ketriken, d'un ton pensif. Voyez les pattes arrière et la queue encore prise dans la pierre. C'est peut-être pour cela que cette statue est si triste. Je ne pense pas. L'artiste la voulait triste dès l'origine. Qu'il l'eût achevée ou non, la partie supérieure serait restée pareille. Ketriken m'adressa un coup d'œil amusé. « Vous ne croyez toujours pas que le dragon de vérité volera quand il sera fini ?»« Moi, si. Mais, évidemment, il ne me reste plus grand-chose en quoi croire. Vraiment plus grand-chose. » Je m'apprêtais à lui répondre que, pour moi, ces histoires de dragons n'étaient que des contes de ménestrels pour les enfants, mais ces derniers mots scellèrent mes lèvres. Revenu au camp, je fabriquai mon balai et me mis au nettoyage avec vigueur. Le soleil était haut dans le ciel d'azur et une brise agréable soufflait. C'était une belle journée, à tout prendre, et pendant un moment ma tâche, si simple, me fit oublier tout le reste. Ketriken déchargea le bois qu'elle avait ramassé, puis repartit en chercher d'autres. Œil de Nuit la suivit, et j'observais avec plaisir qu'Astérie et le fou se dépêchaient de la rejoindre avec des sacs. Une fois le dragon débarrassé des éclats de la poussière de pierre, je pus mieux distinguer les progrès qu'avaient réalisés Caudron et Vérité. La roche noire du dos du dragon était si lisse qu'elle reflétait presque le bleu du ciel. J'en fis la remarque à Vérité, sans vraiment espérer de réponse. Son esprit et son cœur étaient entièrement concentrés sur le dragon. Sur tous les autres sujets, il était vague et hésitant, mais quand il me parlait de son dragon et de son exécution, je retrouvais le roi Vérité de naguère. Quelques instants plus tard, pourtant, il quitta sa position accroupie, se redressa, et d'un geste incertain, caressa l'échine de la bête. Je retins mon souffle, car dans le sillage de sa main argentée, des couleurs étaient soudain apparues. Les écailles s'étaient parées d'une turquoise somptueuse, chacune bordée d'argent. La teinte
chatoyante persista un moment, puis s'effaça. Vérité eut un petit grognement satisfait.
Quand le dragon sera plein, la couleur restera, me dit-il.
Sans réfléchir, je tendis à mon tour la main vers le flanc immense, mais d'un coup d'épaule, Vérité me repoussa brutalement.
N'y touche pas !
M'ordonna-t-il d'un ton presque jaloux. Il dut voir mon expression choquée, car il prit soudain un air attristé.
Il est désormais trop risqué que tu y poses la main, Fitz. Il est trop...
Sa voix mourut, et son regard se fit lointain tandis qu'il cherchait un terme adéquat. Puis, il parut m'oublier, et s'accroupit de nouveau pour reprendre son travail sur la patte de la créature. Il n'est pas meilleur moyen de pousser quelqu'un à se conduire en gamin que de le traiter comme tel. Je terminai mon nettoyage, posai mon balai dans un coin et partis le nez au vent. Je ne m'étonnais pas outre mesure de me retrouver au pied de la fille au dragon. J'avais fini par intituler la statue ainsi, la fille au dragon, car cavalière et monture ne m'apparaissaient pas comme deux entités distinctes. Une fois de plus, je grimpais sur l'estrade à côté d'elle, et encore une fois, je perçus le tourbillon de vif de sa vie, qui s'éleva comme une brume et s'approcha de moi avidement. Que de détresse prise au piège.
Je ne puis rien pour vous, lui dis-je tristement, et je crus sentir qu'elle réagissait à mes propos.
Rester trop longtemps auprès d'elle était affligeant, mais, en redescendant, je notai un détail qui m'alarma. Quelqu'un avait taillé la pierre dans laquelle les pattes arrière du dragon s'embourbaient. Je me penchai. Les éclats et la poussière de pierre avaient été balayés, mais les arêtes de taille étaient aiguës et récentes. Le fou manque vraiment de prudence, me dis-je, et je me redressai avec l'intention de me mettre à sa recherche.
Fitz Chevalerie, reviens à mes côtés tout de suite, je te prie.
Je poussai un soupir. Encore des morceaux de roche à balayer, sans doute. Et c'était pour accomplir ce genre de tâche que j'étais loin de Molly, tandis qu'elle se défendait toute seule. Tout en cheminant vers le dragon de vérité, je me laissais aller à des pensées interdites. Avait-il trouvé un abri? Burick était-il gravement blessé? Il s'était enfui, sans guère plus que ce qu'il portait sur eux. Comment allait-il survivre? À moins que les sbires de Royal ne les eussent à nouveau attaqués. Avait-il emmené de force Molly et la petite Aguée de négoce? Le cadavre de Burick gisait-il quelque part dans les fourrés?
Crois-tu vraiment que cela pourrait se produire sans que tu sois aussitôt au courant?
En outre, Molly m'a paru plus que capable de s'occuper d'elle-même et de l'enfant, et de Burick aussi, donc.
Cesse de penser à eux, et cesse de pleurer sur ton sort. J'ai une mission à te confier.
Arrivé au dragon, je repris mon balai et je m'en servis quelques minutes avant que Vérité s'aperçût de ma présence.
« Ah, tu es là, Fitz !»
Il se releva et s'étira encombrant son dos douloureux.
« Viens avec moi. »
Je l'accompagnai jusqu'au feu du bivouac, où il mit de l'eau à chauffer. Puis, en regardant un morceau de viande boucanée, il dit avec nostalgie
« Que ne donnerais-je pas pour un morceau de pain frais préparé par Sarah ?»
Enfin. Il se tourna vers moi.
Assieds-toi, Fitz. Je désire te parler. J'ai beaucoup réfléchi à tout ce que tu m'as appris, et je voudrais que tu accomplisses une tâche pour moi.
Je m'installai lentement sur une pierre près du feu, en secouant discrètement la tête. Un moment, je ne le comprenais pas du tout, et l'instant suivant, il était redevenu l'homme qui avait été si longtemps mon mentor. Il ne me laissa cependant pas le temps de ruminer ses réflexions.
« Fitz, tu as visité le parc aux dragons en venant ici. Tu m'as dit que le loup et toi aviez perçu de la vie en eux. Du vif de vie, selon ton expression. Et le dragon de Réalder apparut sur le point de se réveiller quand tu l'as appelé par son nom.
Je perçois cette même impression de vie chez la fille au dragon. Dans la carrière, acquiesçai-je. Vérité hocha la tête d'un air attristé.
La pauvre, on ne peut rien pour elle, je le crains. Elle s'est évertuée à conserver sa forme humaine et ainsi elle a manqué de remplir son dragon. Elle est maintenant prise au piège, et elle y demeurera sans doute pour toujours. Son sort m'a été un avertissement. Au moins, son erreur n'aura pas été complètement inutile. Quand j'emplirai le dragon, je ne garderai rien par-devers moi. Ce serait un dénouement navrant, après avoir parcouru un si long chemin et fait tant de sacrifices, de finir avec un dragon embourbé, non. Cette faute-là, je ne la commettrai pas. D'un coup de dent, il trancha un morceau de viande séchée, puis se mit à mâcher d'un air méditatif. Je gardais le silence. J'étais de nouveau perdu. Parfois, je ne pouvais rien faire d'autre qu'attendre que ses pensées le ramènent sur un terrain où il me redevenait compréhensible. Je remarquais une nouvelle trace argentée sur son front, comme s'il avait distraitement essuyé la sueur qui y perlait. Il avala son morceau de viande.
« Reste-t-il des herbes pour la tisane ?»
demanda-t-il, et puis il ajouta
« Je veux que tu retournes auprès des dragons, et que tu vois si tu peux employer ton vif et ton art pour les réveiller. Pour ma part, quand j'y suis passé, j'ai eu beau faire, je n'ai pu détecter de vie dans aucun d'entre eux. J'ai craint qu'il n'ait dormi trop longtemps et qu'il soit mort de faim, après s'être alimenté de leurs propres rêves quand tout le reste est venu à manquer. »
Astérie avait laissé une poignée de feuilles d'ortie et de menthe flétrie. Je les fis doucement tomber dans une casserole, les arrosai d'eau bouillante, puis, en attendant qu'elles infusent, je fis le tri de mes pensées. « Vous voulez donc que je me serve du vif et de l'art pour réveiller les statues de dragon? Mais comment ?» Vérité haussa les épaules.
« Je l'ignore. Malgré tout ce que Cresserelle m'a enseigné, il subsiste d'énormes lacunes dans ma connaissance de l'art. Galen nous a porté un coup majeur en volant les livres de Sollicité et en interrompant notre formation à chevalerie et à moi, et je ne cesse de songer à cet épisode. Tramait-il déjà de donner le trône à son demi-frère, ou bien était-il simplement avide de pouvoir ? Nous n'en saurons jamais rien.
Je posai alors une question que je n'avais jamais formulée. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Selon Caudron, le fait d'avoir tué Carod à l'aide de l'art vous a affaibli. Pourtant, vous avez vidé Galen de son énergie sans paraître en souffrir. Pas plus que Seren ni Justin n'en ont eu l'air quand ils ont vidé le roi de la sienne.
Aspirer l'art d'une personne, ce n'est pas du tout la même chose que la tuer d'une décharge d'art.
Il eut un rire bref et amer.
J'ai fait les deux, et je connais la différence. Galen a fini par préférer mourir plutôt que de me livrer son énergie. Et j'ai idée que mon père a fait le même choix. Je pense aussi qu'il a agi ainsi pour empêcher qu'on sût où je me trouvais alors. Quant à Galen, nous avons aujourd'hui quelques indices sur les secrets qu'il a emportés dans la tombe.
Vérité regarda le morceau de viande qu'il tenait et le posa près de lui.
Mais ce qui compte à présent est de réveiller les anciens. Toi, tu vois une belle journée, Fitz. Moi, je vois une mer calme et un bon vent qui pousse les pirates rouges vers nos côtes. Tandis que je suis ici à tailler, à gratter et à peiner, les habitants des six duchés meurent ou se font forgiser, sans parler des troupes de royales qui attaquent et incendient les villages montagnards le long de la frontière. Et le père de ma propre reine se lance dans le combat pour protéger son peuple des armées de mon frère. Mon cœur s'enflamme quand j'y pense. Si donc tu parvenais à réveiller les dragons, ils pourraient s'envoler dès maintenant pour assurer la défense.
Je répugne à entreprendre une tâche dont j'ignore ce qu'elle exigera de moi, fis-je. Vérité m'interrompit avec un sourire espiègle.
Il me semble que c'est précisément ce que tu appelais de tes vœux hier, Fitz Chevalerie.
Il m'avait coincé. Œil de Nuit et moi, nous mettrons en route demain matin, dis-je.
Il fronça les sourcils. Je ne vois aucun motif d'attendre aussi longtemps. Pour toi, le trajet n'est pas long. Un simple pas dans le pilier.
Mais le loup ne peut pas franchir la pierre. Il restera donc ici. Et j'aimerais que tu y ailles dès maintenant. »
Avec quel calme il m'ordonnait de partir sans mon loup. J'aurais préféré me rendre sur les lieux nus comme un ver. Dès maintenant? Tout de suite, voulez-vous dire?
Et pourquoi pas? Quelques minutes te suffisent pour effectuer le trajet. Vois ce que tu peux faire. Si tu réussis, je le saurai. Sinon, reviens ce soir par le pilier. Nous n'aurons rien perdu à essayer.
Mais le clan ne constitue-t-il pas un danger?
Il n'est pas plus dangereux pour toi là-bas qu'ici. Allons, va.
Dois-je attendre le retour des autres pour leur annoncer où je me rends?
Je m'en occuperai, Fitz-Chevalerie. Acceptes-tu de remplir cette mission pour moi?
Il n'y avait qu'une seule réponse à cette question. J'accepte. Je m'en vais sur le champ. Puis, j'eus une dernière hésitation. Je ne sais pas bien me servir du pilier.
Ce n'est pas plus compliqué qu'une porte, Fitz. Tu poses ta main dessus, et il agit par le biais de l'art qui est en toi.
Il dessina un symbole dans la poussière.
Ce glyphe désigne le parc aux dragons. Plaque-y la paume et avance. Celui-ci,
nouveau dessin dans la poussière,
est le signe de la carrière. Il te ramènera ici.
Ses yeux noirs se plantèrent dans les miens, comme s'il me jaugeait. Je serai de retour ce soir, promis-je.
Très bien. Que la chance t'accompagne,
répondit-il. Tout était dit. Je me levai et m'éloignai du feu en direction du pilier. Je passai devant la fille au dragon en m'efforçant de ne pas me laisser distraire. Dans les bois, je ne sais où, mes autres compagnons ramassaient du bois tandis qu'œil de nuit rôdait dans leur parage.
Tu t'en vas vraiment sans moi?
Je n'en aurai pas pour longtemps, mon frère.
Désires-tu que je revienne t'attendre près du pilier?
Non. Veille plutôt sur la reine, si tu veux bien.
Avec plaisir. Elle a abattu un oiseau pour moi aujourd'hui.
Je perçus son admiration et sa sincérité. Quoi de mieux qu'une femelle qui tue efficacement?
Une femelle qui partage bien.
Garde-moi aussi une partie du produit de la chasse.
Je te laisse les poissons,
répondit-il, magnanime. J'examinai la colonne noire qui se dressait à présent devant moi et trouvai le symbole que je cherchais. Aussi simple qu'une porte, avait dit vérité. Touche le signe et avance. Peut-être, mais mes jambes flageolaient quand même, et je dus faire un rude effort pour lever la main et la poser sur la pierre noire et brillante. Ma paume entra en contact avec le glyphe, et je ressentis une froide traction d'art. Je fis un pas en avant. De l'éclat du soleil, je passai instantanément à une ombre fraîche et mouchetée. Je m'écartai du grand pilier obscur, les pieds dans une herbe épaisse. L'air était lourd d'odeurs végétales mêlées de moisissures. Les branches naguère emperlées de bourgeons croulaient à présent sous les feuilles. Un chœur d'insectes et de grenouilles m'accueillit. La forêt qui m'entourait grouillait d'une vie presque excessive après le silence vide de la carrière, et je restai un moment immobile pour m'adapter au changement. Avec précaution, j'abaissai mes remparts et tâtonnais mentalement autour de moi, mais, à part dans le pilier derrière moi, je ne perçus nulle trace d'usage de l'art. Je me détendis un peu. Vérité, sans le savoir, avait peut-être fait plus que tuer Carode, et désormais le clan craignait de le défier de front. Je me réconfortais de cette hypothèse en me mettant en marche à travers la végétation luxuriante. Je ne tardais pas à me retrouver trempé jusqu'aux genoux. Non que le terrain fût inondé, mais les herbes et les roseaux foisonnants au milieu desquels je me frayais un chemin étaient chargés d'humidité. Des gouttes d'eau tombaient des plantes grimpantes et des feuilles au-dessus de moi, mais cela ne me dérangeait pas. Comparé à la pierre nue et à la poussière de la carrière, c'était plutôt rafraîchissant. Ce qui n'était qu'un vague sentier, lorsque nous étions passés par là, était devenu un étroit couloir entre deux murailles de plantes qui se penchaient et s'étalaient à loisir. Je parvins au bord d'un petit ruisseau chantant et en arrachai une poignée de cresson poivré que je mâchonnais tout en marchant et en me promettant d'en rapporter au camp à la tombée de la nuit. Alors, je me rappelais ma mission. Les dragons. Où étaient les dragons? Ils n'avaient pas disparu, mais la végétation avait poussé autour d'eux. Je repérais une souche foudroyée dont j'avais gardé le souvenir et de là, je réussis à retrouver le dragon de Réalder. D'avance, j'avais décidé de commencer par lui, le jugeant le plus prometteur de tous, car j'avais senti en lui, sans l'ombre d'un doute, une puissante vie de vif. Comme si cela devait faire la moindre différence, je passais quelques minutes à le dégager des plantes grimpantes et de l'herbe humide et collante, et ce faisant, je fis une observation qui me frappa. Le corps de la créature endormie suivait les contours du sol en dessous d'elle. Cela n'évoquait pas une statue qu'on eût déposée là, mais plutôt un être vivant qui se fût installé là pour se reposer et n'en eût plus jamais bougé. J'essayais de toutes mes forces d'y croire. Ces dragons étaient bel et bien les anciens qui avaient répondu à l'appel du roi Sagesse. Tels d'immenses oiseaux, ils avaient volé jusqu'à la côte, où ils avaient vaincu les pirates et les avaient chassés de nos parages. Ils avaient fondu des cieux, rendu les équipages fous de terreur ou fait chavirer les navires sous le grand vent de leurs ailes. Et ils pourraient le refaire pour peu que nous parvenions à les réveiller. « Je jure d'essayer, » dis-je tout haut, puis je me repris. « Je jure de les réveiller, » en m'efforçant de chasser tout doute de ma voix. Je fis lentement le tour du dragon de Réalder en tâchant de décider par où commencer. Depuis la tête reptilienne en forme de coin jusqu'à la queue barbelée, c'était le dragon typique des légendes. Admiratif, je caressais ses écailles luisantes et je sentis le vif ondoyer paresseusement en lui comme un ruban de fumée. Par un pur effort de volonté, je me forçais à croire qu'il y avait de la vie en lui. Un artiste aurait-il pu réaliser aussi parfaitement l'image d'une créature vivante? J'observais les renflements osseux au sommet des ailes, semblables à ceux d'un jar et capables, à coup sûr, d'étendre un homme pour le compte. Les méchantes barbelures de la queue étaient restées aiguës et je les imaginais aisément détruisant gréement, outour, déchirant, lacérant, arrachant. « Réalder !» criai-je. « Réalder !» Je ne perçus aucune réaction. Pas le moindre frémissement d'art, ni même un grand changement dans son vif. Bah, ça aurait été trop facile, me dis-je, et je passai ensuite plusieurs heures à essayer tous les moyens de le réveiller qui me venaient à l'esprit. J'appuyai ma joue contre sa tête écailleuse et sondais mentalement aussi loin que je le pus. Mais j'aurais obtenu davantage de résultats d'un ver de terre. Je m'étendis le long du grand lézard de pierre et tentai de ne plus faire qu'un avec lui, de me lier au frémissement léthargique de vif que je sentais en lui. Je lui projetai des pensées affectueuses, je m'acharnais à lui donner des ordres et j'allais, Eda ait pitié de moi, jusqu'à le menacer des pires conséquences s'il ne se réveillait pas pour se mettre à mon service. Tous mes efforts restèrent vains et je me trouvai réduit à me raccrocher à des fétus de paille. J'évoquais l'image du fou. Rien. Je rappelais du fond de ma mémoire le rêve d'art que le fou et moi avions partagé, puis m'efforçais de revoir le plus de détails possible de la femme à la couronne au coq. Et enfin, je la lui offris. Pas de réaction. Je me tournais vers une approche plus prosaïque. Vérité avait dit qu'ils étaient peut-être morts de faim. Je visualisais donc des étangs d'eau douce et fraîche, de gros poissons argentés, prêt à se laisser attraper. J'imaginais le dragon de Réalder en train de se faire dévorer par un autre dragon, plus grand que lui, et je présentais cette évocation à la créature endormie. Pas de réaction non plus. Je me risquais alors à m'adresser à mon roi. S'il y a de la vie dans ces pierres, elle est trop infime et trop éloignée pour que j'y atteigne. Vérité ne prit même pas la peine de répondre, et cela me chagrina un peu. Mais peut-être lui aussi avait-il vu dans ma mission une tentative de dernier recours, sans guère de chance de réussite. Délaissant le dragon de Réalder, je flânais à un moment d'une créature de pierre à l'autre, l'esprit en alerte, à la recherche d'une étincelle de vif plus brillante. Je crus une fois en avoir découvert une, mais un examen plus approfondi me révéla qu'il s'agissait d'une souris, qui avait fait son nid sous le poitrail du dragon. Je finis par choisir une créature parée d'andouillés, comme un cerf, et essayai sur elle toutes les tactiques que j'avais employées sur le premier, sans plus de résultats. Quand j'en eus terminé, le jour baissait. Comme je reprenais le chemin du pilier, je me demandais si Vérité avait réellement espéré que je réussirais. Obstinément, mais toujours en me dirigeant vers la colonne noire, j'allais de dragon en dragon pour effectuer sur chacun une ultime tentative. C'est sans doute ce qui me sauva la vie. J'avais interrompu mon examen d'une des créatures, car il m'avait semblé sentir une forte vie de vif émaner de la suivante. Mais, quand je m'approchais de l'énorme sanglier ailé aux défenses aiguës et incurvées, je constatais que le vif provenait d'au-delà de lui. Je scrutais le sous-bois, en m'attendant à voir un daim ou un cochon sauvage, mais c'est un homme armé d'une épée, dos à moi, que je vis. Je m'accroupis derrière le sanglier. La bouche, soudain sèche, le cœur battant. Ce n'était ni Vérité, ni le fou, comme je m'en étais rendu compte en un instant. Il était plus petit que moi. Il avait les cheveux blonds roux, et à sa façon de tenir son épée, il savait s'en servir. Il était vêtu d'or et de brun. Il ne s'agissait ni du gros ronce, ni du sombre et mince guillot, mais c'était un homme de royal. En une fraction de seconde, tout m'apparut clairement. Comment avais-je pu être stupide à ce point? J'avais abattu les hommes de guillot et de ronce, détruit leurs vivres et chassé leurs chevaux. Que pouvait-il faire d'autre qu'artiser royal pour qu'il remplace les soldats et le matériel perdu? Avec les escarmouches incessantes le long de la frontière, il n'avait pas dû être difficile à une troupe de pénétrer dans les montagnes, de contourner Jaampe et de suivre la route d'Ar. La zone d'éboulement que nous avions franchie constituait un obstacle redoutable, mais pas insurmontable, et Royal ne redoutait certes pas de mettre en péril la vie de ses hommes. Je me demandais combien avaient tenté la traversée du Pierrier, et combien en étaient sortis vivants. En tout cas, j'avais la certitude qu'à présent, Guillot et Ronce disposaient de toutes les fournitures nécessaires. Soudain, une pensée plus inquiétante me vint. L'homme savait peut-être artiser. Rien n'empêchait Guillot de former de nouveaux élèves. Il avait en sa possession tous les livres et manuscrits de sollicité. Et, si l'aptitude à l'art n'avait rien de commun, elle n'était pas non plus extrêmement rare. En quelques instants, mon imagination multiplia l'homme par 20 et 100. Tous soldats peu ou prou doués pour l'art, tous fanatiquement fidèles à Royal. Je me laissai aller contre le sanglier de pierre et m'efforçai de respirer sans bruit, malgré la terreur qui me fouillait les entrailles. Un moment, je restai pétrifié, en proie au plus profond désespoir. Je venais enfin de prendre conscience de l'immensité des moyens dont Royal pouvait se servir contre nous. Il ne s'agissait plus d'une petite guerre entre nous. Royal avait à sa main l'armée et les pouvoirs d'un roi, et il avait juré d'exterminer tous ceux auxquels il avait accolé l'estampille de traître. Tout ce qui retenait Royal jusque-là était l'éventuel embarras que n'aurait pas manqué de susciter la découverte que Vérité n'était pas mort. Mais à présent, dans les régions reculées où nous nous trouvions, il n'avait plus rien à craindre. Il pouvait se servir de ses soldats pour se débarrasser de son frère, de son neveu, de sa belle-sœur et de tous les témoins. Ensuite, le clan pouvait éliminer les soldats. Ces réflexions traversèrent mon esprit comme l'éclair illumine la nuit la plus obscure. En un clin d'œil, tous les détails m'apparurent, et je compris aussitôt qu'il me fallait retourner au pilier et par là à la carrière pour prévenir Vérité, s'il n'était pas déjà trop tard. Dès que je me fus fixé ce but, je me sentis plus calme. J'envisageai d'artiser Vérité, puis rejetai promptement cette idée. Tant que je n'en saurais pas davantage sur mon adversaire, je ne voulais pas risquer de me dévoiler à lui. Je me surpris à considérer la situation comme s'il s'agissait du jeu de Caudron, des cailloux à capturer ou à éliminer. L'homme se tenait entre le pilier et moi, comme il fallait s'y attendre. Je devais maintenant découvrir s'il était seul ou non. Je tirai mon poignard. Dans l'épais sous-bois, une épée n'était pas l'arme idéale. Je pris une profonde inspiration pour affermir mon courage et m'écartai discrètement du sanglier. La zone m'était grossièrement connue, ce qui m'était fort utile alors que je me déplaçais de dragon en dragon et de tronc en vieille souche. Avant que l'obscurité ne fût tombée, je savais qu'il y avait trois hommes dans les parages et qu'apparemment, ils montaient la garde autour du pilier. À mon sens, ils n'étaient pas là pour me donner la chasse, mais plutôt pour empêcher quiconque, sauf les membres du clan, de se servir de la colonne. J'avais trouvé l'emplacement où ils avaient quitté la route d'art. La piste était fraîche. Ils venaient donc d'arriver, ce qui me portait à penser que je connaissais le terrain mieux qu'eux. Ils ne devaient pas non plus savoir artiser, puisqu'ils étaient venus par la route et non par le pilier. Toutefois, c'était sans doute des soldats aguerris. Je décidai aussi de me fonder sur l'hypothèse que Guillot et Ronce étaient tout prêts, en mesure de surgir de la colonne en un clin d'œil. Aussi dressai-je mes murailles mentales et les maintins-je fermement érigées, puis j'attendis la suite. En ne me voyant pas revenir, Vérité se douterait qu'il y avait une anicroche, mais je ne pensais pas qu'il commettrait l'imprudence d'emprunter le pilier pour se mettre à ma recherche. Pour tout dire, j'aurais été étonné qu'il fût prêt à délaisser si longtemps son dragon. Je devais me tirer seul de ce mauvais pas. Comme la nuit tombait, les insectes firent leur apparition. Des insectes par centaines, qui piquaient en zonzonnant et dont un persistait à me bourdonner aux oreilles. La brume commença à monter du sol, et mes vêtements, sous l'action de l'humidité, me collèrent au corps. Les gardes avaient allumé un petit feu. Je captai une odeur de gâteau cuit sous la cendre, et je me surpris à me demander si je parviendrais à tuer les trois hommes avant qu'ils les aient tous mangés. Avec un sourire sinistre, je m'approchai d'eux comme une ombre. La nuit, un feu et de quoi manger sont en général synonymes de conversation. Pourtant, les trois hommes parlaient peu, et la plupart du temps, à mi-voix. Leur mission ne leur plaisait pas. La longue route noire avait rendu fous certains de leurs compagnons. Cependant, ce soir, ce qui les dérangeait n'était pas le long chemin qu'ils avaient dû parcourir, mais la présence des dragons de pierre. J'en entendis assez pour avoir confirmation de ce que j'avais supposé. Les trois soldats étaient là pour surveiller le pilier. Une bonne douzaine d'autres gardaient celui qui se dressait au milieu de la place où le fou avait eu sa vision. Et le corps principal du détachement avait été envoyé vers la carrière. Le clan cherchait à couper toute voie d'évasion à Vérité. J'éprouvais un certain soulagement à l'idée qu'il leur faudrait au moins autant de temps qu'à nous pour parvenir à la carrière. Pour cette nuit, Vérité et les autres ne risquaient nulle attaque. Mais ce n'était qu'une question de temps. Et ma résolution de rejoindre mes compagnons le plus vite possible par le biais du pilier en fut affermie. Je n'avais néanmoins pas l'intention de combattre les trois hommes ensemble. Je devais donc les tuer, un par un, en embuscade, exploit dont je ne suis pas sûr que même Imbre eût été capable, ou bien créer une diversion qui les occuperait le temps que je me précipite vers le pilier. Je m'éloigna discrètement jusqu'à ce que je me juge hors de portée de leurs oreilles. Puis, je me mis à ramasser du bois sec, tâche malaisée au milieu d'une région à la végétation aussi luxuriante. Je finis néanmoins par obtenir un fagot de taille respectable. Mon plan était simple. Et il fonctionnerait ou ne fonctionnerait pas. En tout cas, les trois hommes rendus méfiants ne me laisseraient sans doute pas une seconde chance. Je me remémorais l'emplacement du signe de la carrière sur le pilier. Puis je décrivis un grand arc de cercle pour me rapprocher des dragons qui se trouvaient de l'autre côté. Je choisis parmi les créatures endormies celle qui avait l'air le plus féroce, dont j'avais remarqué les touffes de poils aux oreilles lors de mon premier passage. Elle projetterait une ombre superbe. Derrière elle, je dégageais une petite zone de terre, de l'herbe et des feuilles humides qui l'encombraient, et j'y bâtis mon feu. Ma réserve de bois ne tiendrait que le temps d'une brève flambée, mais j'espérais ne pas avoir besoin de plus. Je voulais juste assez de lumière et de fumée pour donner un aspect mystérieux à l'affaire. Une fois le feu bien parti, je m'éloignais dans les ténèbres. Le ventre dans l'herbe, je m'approchais autant que je l'osais du pilier. Il ne me restait plus qu'à attendre que les gardes remarquent la lueur des flammes. Je souhaitais qu'au moins un des hommes aille se rendre compte sur place de ce qui se passait pendant que ses compagnons le suivraient des yeux. Alors, une course discrète, la paume sur le pilier et j'aurais disparu. Oui, mais les gardes ne remarquèrent pas mon feu. De mon poste d'observation, il me paraissait pourtant parfaitement visible. De la fumée s'en élevait et une lumière rosée jouait à travers les arbres, sur laquelle se découpait en partie la silhouette du dragon qui, du moins, l'avais-je espéré, piquerait la curiosité des soldats. Cependant, au contraire, elle cachait trop bien mon feu. Je songeais alors que quelques cailloux adroitement lancés attireraient leur attention sur la flambée. Mais mes mains tâtonnantes ne rencontrèrent que de vigoureux végétaux qui poussaient dans l'épais humus de la forêt. Après une attente interminable, je m'aperçus que mon feu se mourait sans que les gardes l'eussent seulement aperçu. Une fois de plus, je m'écartai du pilier. Une fois de plus, je ramassai du bois dans le noir, puis, au nez autant qu'à l'œil, je retournai auprès de mon tas de braises.
« Mon frère, tu es parti depuis bien longtemps. Tout va bien ?»
Je sentis de l'inquiétude dans la faible pensée d'œil de nuit.
« On me chasse. Tiens-toi tranquille. Je reviendrai aussi vite que possible. »
J'écartai doucement le loup de mon esprit et m'approchai sans bruit de mon feu mourant. Je le rechargeai et attendis que le bois prît. Je m'en éloignai quand j'entendis les soldats échanger des propos d'un ton perplexe. Ce ne fut pas ma faute, je pense, mais un méchant tour du sort qui voulut que, au moment où je quittais l'abri du dragon pour celui d'un arbre, un des gardes leva haut sa torche à la lumière de laquelle ma silhouette se détacha nettement.
« Là, quelqu'un !»
cria un des hommes, et deux d'entre eux se ruèrent vers moi. Je m'éclipsai en me coulant dans le sous-bois humide. J'entendis un des soldats trébucher sur une plante et jurer, mais son compagnon était rapide et agile. En un instant, il fut sur mes talons, et je sentis le vent de son premier coup d'épée. Je m'écartai de son chemin et me retrouvai en train de bondir sur le sanglier de pierre. Je me cognai douloureusement le genou sur son échine et retombai de l'autre côté, où je me relevai aussitôt. Mon poursuivant se jeta sur moi en me portant un coup d'une puissance extrême, et il m'aurait coupé en deux s'il ne s'était pas pris les pieds dans une des défenses incurvées. Il s'abattit brusquement en avant et s'empala sur la deuxième défense qui saillait, tel un cimetière, de la gueule rouge du sanglier. Il poussa un cri étouffé, puis il voulut se redresser, mais la défense courbe était plantée en lui comme un hameçon. Je me remis debout d'un bond, en songeant au second soldat qui s'était lancé à mes trousses, et je m'enfuis dans la nuit. Derrière moi s'éleva un long hurlement de souffrance. J'avais conservé assez de présence d'esprit pour effectuer un arc de cercle, et j'étais presque revenu au pilier quand je sentis une torsion tâtonnante de l'art. Je me remémorais la dernière fois où j'avais perçu un tel phénomène. Vérité, subissait-il une attaque dans la carrière? Il restait un soldat près de la colonne, mais je décidai de courir le risque d'affronter son épée pour retourner auprès de mon roi. Je jaillis des arbres et me ruai en avant en profitant de ce que le garde regardait ailleurs, en direction du feu et des cris de son compagnon embroché. Une nouvelle volute d'armes effleura.
« Non, ne vous exposez pas !»
m'exclamai-je en voyant mon roi surgir du pilier, son épée ébréchée dans sa poigne argentée. Il apparut derrière le soldat qui, à l'interjection que j'avais poussée sans réfléchir, pivota et se jeta sur Vérité, l'arme haute, bien qu'il fût visiblement terrorisé. Il faut dire qu'à la lueur du feu, mon roi avait l'air d'un démon sorti tout droit d'un conte d'épouvante, le visage éclaboussé de mouchetures miroitantes, les mains et les avant-bras brillants comme s'ils étaient faits d'argent poli, avec son visage décharné, ses vêtements en lambeaux et ses yeux d'une noirceur absolue. Il aurait terrifié n'importe qui, et je dois reconnaître, au crédit du soldat de Royal, qu'il ne faiblit pas. Il bloqua le premier assaut du roi et le détourna, du moins, le crut-il. C'était un vieux truc de vérité. Il enveloppa la lame de son adversaire et, en temps normal, lui aurait tranché net la main. Mais émoussé, son épée s'arrêta contre l'os. Néanmoins, l'homme lâcha son arme et se laissa tomber à genoux en agrippant son poignet ruisselant de sang. L'épée de vérité refit un nouveau passage et lui ouvrit la gorge. Je sentis un second tremblement d'art. Le seul garde survivant sortit des bois et se précipita vers nous. Son regard se fixa sur Vérité et il poussa un cri d'effroi.
Il s'arrêta net, et Vérité fit un pas dans sa direction.
« Assez, mon roi »
m'écriai-je.
« Allons-nous-en !»
Je ne voulais pas qu'il risque à nouveau sa vie pour moi. Mais Vérité se contenta de baisser les yeux sur son arme, les sourcils froncés. Soudain, de la main gauche, il saisit sa lame au ras de la garde et la fit coulisser jusqu'au bout dans sa poigne miroitante. Ce que je vis alors me laissa pantois. L'épée qu'il tenait à présent chatoyait et possédait une pointe parfaite. Malgré le peu de lumière que dispensaient les torches, je distinguais les multiples reflets du métal plié et replié de l'arme. Le roi me jeta un coup d'œil.
J'aurais dû me douter que cela fonctionnerait.
Et il faillit sourire. Il présenta la lame remise à neuf à son adversaire.
Quand tu seras prêt,
fit-il calmement. Je restai interdit devant ce qui se passa ensuite. Le soldat tomba à genoux en jetant son épée dans l'herbe devant lui.
« Mon roi, je vous reconnais, même si vous ne me reconnaissez pas. »
On entendait nettement l'accent de serre dans ses propos bégayés.
« Monseigneur, on nous avait certifié que vous étiez mort, mort à cause de votre reine et du bâtard qui avait conspiré contre vous. » Ce sont eux que nous venions chercher ici, à la suite des renseignements qu'on nous a fournis. C'est en partie pour vous venger que je suis venu. Je vous servais bien en serre, monseigneur, et puisque vous êtes vivant, je sers encore mon roi. »
Vérité scruta son visage à la lumière tremblante des torches.
« Tu t'appelles Tig, n'est-ce pas? Tu es le fils de Rapin. »
Le soldat écarquilla les yeux. Le roi se souvenait de lui.
Tag, monseigneur, et je suis prêt à servir mon roi, comme mon père autrefois.
Sa voix chevrotait un peu, et ses yeux sombres ne quittaient pas la pointe de l'épée tournée vers lui. Vérité baissa son arme.
Dis-tu vrai, mon garçon, ou bien essaies-tu simplement de sauver ta peau?
Le jeune soldat leva les yeux vers lui et sourit hardiment.
Je n'ai rien à craindre. Le prince que je servais n'aurait jamais tué un homme à genoux et sans armes. Je pense que le roi agira de même.
Aucune autre réponse, peut-être, n'aurait su convaincre Vérité. Malgré sa fatigue, il sourit.
Alors va-t'en, Tag. Va-t'en aussi vite et aussi discrètement que possible, car ceux qui t'ont manipulé te tueront s'ils s'aperçoivent que tu m'es fidèle. Retourne en serre, sur ton chemin, et quand tu seras arrivé, annonce à tous que je vais revenir, que je vais ramener avec moi ma bonne et loyale épouse pour la faire régente du trône sur lequel mon héritière prendra place à ma suite. Et quand tu parviendras au château de Castelserre, présente-toi à la femme de mon frère et dis à Dame Patience, que je te mets à son service.
Oui, monseigneur, roi Vérité.
Qu'y a-t-il?
D'autres troupes sont attendues ici. Nous ne formions que l'avant-garde. Il s'interrompit et avala sa salive.
Je n'accuse personne de trahison, et surtout pas votre propre frère, mais...
Ne t'inquiète pas de cela, Tag. Ce que je t'ai demandé de faire est important. Va vite et fais en sorte de ne provoquer personne en route, mais délivre à tous les nouvelles que je t'ai données.
Oui, mon roi.
Tout de suite,
ajouta Vérité. Tag se releva, prit son épée, la rengaina et s'enfuit à grands pas dans l'obscurité. Vérité se retourna, une expression triomphante dans ses yeux brillants.
Nous pouvons y arriver,
me dit-il à mi-voix. Puis, il indiqua le pilier d'un geste brusque. Je posai la paume sur le symbole, l'arme agrippa, et j'arrivai dans la carrière en trébuchant. Vérité apparut, juste derrière moi.